Nous sommes en février 2017 et vous écoutez l'épisode 84 chronique de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et pour m'accompagner, j'ai avec moi celui à qui a reçu des coups de fouet suite à sa rébellion Père Castor. Salut Père Castor.
Je m'insurge.
T'as remarqué que la dernière fois, on n'a même pas passé ta chronique hein, parce que tellement
ouais, c'était... tu m'as d'abord viré.
Voilà.
tu m'as remplacé par Matt D pour, c'était voilà. Quoi, pour le 82, 83
voilà. Après, du coup, ça t'a pas plu, donc tu as fait un épisode tout seul avec Flavien, c'est
voilà,
ça?
C'est ça. Après, tu m'as refait la gueule, du coup, c'est moi qui j'ai décidé, bah non, je fais pas de voilà. Top 500 pour le suivant. Tu m'as re-remplacé par Matt D.
Et maintenant, happy end,
voilà.
On est de nouveau ensemble.
Voilà, on est nouveaux copains et on refait un épisode ensemble.
C'est beau, les coulisses de, voilà. De Proxy Jeux. Et merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux société sur philibernet.com. Et donc, quand vous passez dans la boutique, pensez à leur faire un petit coucou. Surtout si vous venez de France de l'intérieur et que vous venez visiter Strasbourg et que vous veniez visiter Philibert.
Voilà. Voilà. Et étape obligatoire pour le tourisme joueur alsacien.
Voilà. Et un grand merci à nos tipeurs de soutenir ce podcast. Merci à la famille Blu pour son don nature. Et donc, les trois derniers tipeurs, on en a eu dernièrement Aldebaran, Le Pion Fesseur. Alors, je ne sais pas s'il fait du SM, si c'est un Meeple qui fait du SM. Je sais pas. Et Paul Gara 21 aussi sur Twitter qui nous a donné un petit tip. Donc ça fait toujours plaisir.
Et donc, grâce à ça, on a pu financer ton déménagement. Hein. C'est bien ça, puisque
voilà.
Là, on enregistre. C'est la première fois qu'on
voilà.
Enregistre dans le nouveau studio.
Voilà,
enfin,
voilà. Nouveau studio avec une belle vue
sur le noir.
Le paysage,
en fait.
sur le paysage alsacien. Et donc, on a eu des commentaires sur les derniers épisodes.
Oui, surtout sur l'épisode avec Mathieu Despnous, donc l'épisode 84.
Voilà.
Donc ça a fait plaisir à Cyrus parce que c'est un des épisodes sur lequel il y a eu le plus de retours cette saison, même si la moitié des commentaires sont de Cyrus. Bon, même si on divise par deux, ça fait pas mal de retours des auditeurs.
Ouais, les auditeurs ont bien apprécié. Bah, c'est des jeux que les joueurs ils apprécient en règle générale quoi. C'est on a peut-être touché un auditoire un peu plus large que. Avec des jeux Pearl Game
Bah, disons que c'est vrai que les jeux Cocktail Game sont un peu plus grand public.
Ouais.
Et bon, moi personnellement, j'en ai pas beaucoup des Cocktail Game dans ma collection, mais quand même, je m'y intéresse quand même de plus en plus parce que ça permet quand même de s'ouvrir à des joueurs
voilà
novices.
Pour initier les gens. Et
voilà,
puis,
présenter à la famille, présenter aux collègues. C'est des jeux qui peuvent sortir assez facilement entre milliers d'eux. J'ai fait l'erreur cette semaine de proposer un Spirium à des collègues. J'en ai perdu la moitié.
Ouais, c'est sûr.
Mais des jeux Cocktail Game, ça peut. Et
ouais.
Souvent, ils peuvent servir de passerelle. Si
ouais,
tu prends
voilà.
Par exemple Sushi Go, qui est un jeu à base de draft, ça peut être une bonne introduction pour ensuite basculer vers un Seven Wonders.
Ouais. Ouais, non, mais ils sont. C'est des bons jeux, quoi. Et puis, c'est. Voilà. On n'est pas toujours à 100% de nos capacités à vouloir réfléchir. Il y a des fois, autour d'un verre, voilà, un petit contrario, ça passe tout seul, quoi.
T'en as combien, toi, des Cocktail Games dans ta collection ?
Alors, moi, j'ai un peu anticipé ta question. J'ai checké avec BGG et j'en ai 5. J'ai Photo Party, parce que ceux qui me suivent sur Twitter et... savent que je suis aussi assez fan de photos numériques ou argentiques. Donc là, le fait d'utiliser un appareil photo, ça m'a bien plu. Alors je me suis dit, ah tiens, on va tester ça. Quoi.
Donc le but, c'est de prendre des photos
le but, c'est de prendre des photos sous contrainte. Donc voilà, on définit au départ un cadre voilà, entre ce point-là. On pose un sac ou un truc dans un coin et un truc dans l'autre coin. Et il faut, par exemple, il y a des défis, on tire une carte, et puis il faut par exemple, je crois qu'il y a un truc Louis XVI, donc il faut pas que ta tête apparaisse sur la photo. Donc faut que tu sois à la limite du cadre, donc faut que tu te souviennes comment il faut jouer avec la profondeur, si tu peux aller un peu plus devant pour te mettre, pour que ta tête soit coupée par en haut ou te pencher sur le côté, mais te mettre juste à la limite pour que ta tête n'apparaisse pas, quoi.
D'accord. Alors, du coup, tu peux pimper ton jeu parce que tu peux te faire ça soit à l'appareil jetable ou alors carrément investir dans, voilà. dans le gros réflexe numérique
ben
avec
voilà,
objectif.
Nous, on a un réflexe avec. Avec un pied, tu mets le déclencheur à 10 secondes et voilà, c'est... au bout de 10 secondes, il faut arriver à...
Oh, c'est de la triche, ça, non?
Non, mais après, c'est sympa. Et puis après, il y a des épreuves où c'est, par exemple, le bus, donc, où il faut que, pour gagner, il faut être dans le groupe où il y en a le plus, debout ou assis. Donc tu t'assois, mais alors après tu crois qu'il y a trop de monde assis, vite, alors faut te mettre debout et ainsi de suite. Faut,
et il y a que toi qui connais la contrainte ?
Non, tu annonces la contrainte, tu lances le truc, le compte à rebours de l'appareil photo, et voilà, il y a des choses comme ça.
Et dans la précipitation, tu fais tomber le pied avec l'appareil photo.
Et là, c'est le drame. Non, ouais, j'ai bien apprécié. Alors bon, c'est plutôt un jeu d'été, hein, parce qu'en extérieur, c'est quand même plus pratique, quoi. Sinon, pour l'hiver, moi, j'aime bien Contrario. Alors, comme je suis un fan de jeux de mots, ça en fait un peu partie, quoi. Ça fait un peu travailler les ménages dans ce sens-là.
Mathieu a beaucoup parlé de ce jeu dans l'épisode 84. Donc, si vous voulez connaître un peu toute l'histoire autour du jeu, voilà. Contrario, n'hésitez pas à rebasculer sur l'épisode 84 ouais. principal.
Voilà. Même s'il est il est un peu long, 4 heures, mais ça passe vite en fait. et sinon, j'ai Compatibility. Mais la vieille version des années 90, je crois pas que c'était encore celle de...
Elle est pas compatible avec la nouvelle ?
Si, elle est compatibilité avec la nouvelle aussi. Voilà. Et en fait, il y a les vieilles illustrations des années 90, dont la photo de la vieille dame qui fait de la cuisine. Ceux qui ont la même version voient totalement la carte de quoi je veux parler.
Ça sorte de Maïté. Maïté ouais, dans la cuisine des mousquetaires.
C'est un peu l'esprit Maïté, voilà. Et la photo du téléphone portable, c'est pas un iPhone, hein, c'est plus un
téléphone à cadran.
Un gros téléphone comme on avait dans les années 90, tu vois, qui faisait la réussite, tu vois, t'as un téléphone portable. Et sinon, j'ai Anabi aussi. Alors bon,
ouais,
Anabi,
pareil,
je sais pas la version Cocktail Games, ça, on va pas le dire, mais
t'as pris la version pas chère de Abacus,
voilà,
Spiel,
qui a eu le Spiel, je l'avais eu à SN.
Ah, du coup, t'as le macaron dessus.
Je crois que j'ai le macaron, ouais, du coup, du Spiel. C'est peut-être pour ça que mon cœur a chaviré. Ah non, c'était Olivier DPJ qui m'avait dit, on était à Essen ensemble et justement il avait acheté ce Anabi pas cher et je lui ai dit, bon, moi j'ai jamais joué à Anabi. Il dit, quoi, t'as jamais joué à ce jeu, magnifique jeu, tiens, je te l'offre, tiens, tu repars pas sans ton...
Ah, okay. C'est Olivier qui disait, Anabi, voilà. C'est le meilleur jeu coopératif du monde.
Bah oui, bah voilà, c'est... Bah oui, pas comme il n'y a pas d'effet leader, ils en parlent aussi dans l'épisode.
Je l'ai offert à des amis, Anabi, mais le problème, c'est qu'ils me racontaient que dans leur partie, ils trichent entre eux. c'est un peu dommage, hein, ça nuit un peu au but du jeu.
Ouais, ça, c'est enfin, les jeux coopératifs, c'est un peu le travers, on peut essayer de tricher, quoi. C'est un peu toujours ça, quoi.
Ouais. Et du coup, quand tu donnes des informations, tu insistes fortement, voilà. Par exemple, celle-là, c'est un 3 par rapport à l'information
ah bon,
précédente.
Ah bon, tu triches. Non, et sinon, j'ai Imagine aussi, qui, c'est vrai que
ouais, gros succès,
tu as eu un gros succès. Et sinon, j'avais joué aussi à L'Île Interdite, mais je l'ai pas acheté parce que comme j'ai déjà pandémie le remède, donc dans la ludothèque... Ça fait un peu doublon quand même, quoi.
Et c'est difficile à ranger.
En plus. et j'avais testé aussi Chabyrinth, qui est sympa aussi, avec un système de cartes un peu genre Mr. Jack Pocket. C'est un peu, t'as des cartes comme ça et des cartes qui se baladent autour. T'as 9 cartes, je crois, au milieu et des cartes qui se baladent autour où c'est des chats qui doivent sortir d'un labyrinthe.
T'as un jeu de chat, ouais, qui doit se promener.
Ouais. Ça, c'est sympa aussi, quoi.
C'est le premier jeu édité d'Antoine Bozin, il me semble.
Ouais. Voilà, donc voilà pour mes jeux. Et toi, t'en as d'autres
Bah, on a cité Anabi déjà. J'ai Sushi Go, donc ouais. Petit jeu de draft autour de la thématique sushi. Donc à sortir après avoir commandé sa box chez Sushi Box. et ouais, je crois que c'est tout de chez Cocktail Game.
Voilà pour le retour sur les commentaires du 84, donc avec Mathieu Despneaux. Donc on vous encourage à lire les commentaires et à en laisser un si ça vous a plu.
Et on vous promet de vous faire un retour. En tout cas, voilà. Cyrus dégaine une réponse très très rapidement. Il suit ardument les commentaires sur le site. Ouais. Et il y a également eu des retours et des commentaires sur iTunes.
Ouais.
Notamment deux commentaires, un de Kisco qui apprécie les longues interviews, donc avec le 84 il doit être servi.
Ah, oui, là, oui.
Et il nous encourage de continuer. Alors c'est vrai qu'on a eu des retours assez différents sur des épisodes qui tirent en longueur, des épisodes plus courts, plus concis, qui insistent plus sur le fond. En fait, on peut un petit peu dire, c'est probablement sans prendre la grosse tête, dire que c'est la richesse du podcast, c'est qu'on propose des épisodes qui sont différents et chaque éditeur y trouve son compte et chacun peut faire le tri dans les chroniques ou les épisodes qu'il veut écouter.
Voilà, c'est vrai qu'après on se reconnaît plus si on est plutôt un joueur de cube en bois. C'est vrai que l'interview de Mathieu, ça peut peut-être moins nous intéresser, ou si on est un joueur plus casual, voilà, on peut plutôt écouter les interviews d'éditeurs ou de gens qui font un peu plus des gros jeux. Ça peut un peu moins nous toucher, quoi, mais nos invités sont quand même toujours intéressants. Ils ont toujours des petites anecdotes, ils sont sympas, ouais. sur le monde du jeu, quoi.
Et pareil, si on s'intéresse plus à pour creuser le fond d'un jeu, bah il y a l'épisode Jeu du mois avec le couple Benoît FX et Cyrus, qui rencontrent un succès.
S'il vous reste de l'argent après avoir fait les news Trick Track et Ludovox et que vous n'avez pas encore craqué sur un jeu, bah voilà, écoutez-les, ils vous donneront sûrement envie d'acheter un des deux jeux qui chroniquent, quoi.
Exact. Et on a également un deuxième commentaire de Sherakan, qui est présent également sur Twitter, qu'on salue, et qui dit redécouvrir le podcast. Donc ça doit être un auditeur de la première heure. Et il prend plaisir à écouter la nouvelle équipe et il apprécie la diversité des formats. On le remercie.
Ouais, et en parlant de différents formats, ben vous aurez des formats un peu des petites interviews au Festival de Cannes qui se tient ce week-end. Enfin, je dis ce week-end, normalement vous devrez avoir le podcast juste avant ou pendant le Festival du Cannes. Donc du 24 au 26 février 2017.
Donc ça sera le record de temps entre l'enregistrement et la diffusion du podcast, hein, parce que là on est mercredi soir.
Voilà, voilà, donc vendredi ou samedi dans la journée vous l'aurez, quoi. Donc vous l'aurez avant durant le festival, quoi, si vous voulez faire une pause en nous écoutant.
Voilà, vous sortez du festival pour récupérer un peu de 4G, télécharger l'épisode et l'écouter en faisant la queue pour rentrer dedans.
Voilà. Parce qu'il y a eu les consignes de sécurité. Et alors moi, j'ai regardé ça avec un peu de circonspection, quoi, parce que il y a pas mal de choses. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut avoir une pièce d'identité. Les mineurs ne sont pas admis seuls, quoi. Donc on pourra pas trop jouer à Saboteur.
Ouais.
Voilà. J'ai vu qu'il faut pas emmener d'armes, donc voilà, vous ne pouvez pas d'armes. Alors est-ce que les armes de cosplay seront autorisées ou pas?
Écoute,
ça, on peut pas savoir.
Les épées qui sont vendues au stand où il y a les GN.
Ouais.
Il y a quoi se poser des questions.
Alors que les poussettes aussi sont interdites. Attention, les poussettes sont interdites. Alors je sais pas s'ils les considèrent comme des armes.
Ouais. Et les bombes de peinture aussi sont interdites.
Voilà. Et ils précisent poussettes et overboard. Donc voilà, si Marty arrive du passé ou du futur, parce que maintenant on sait plus d'où il vient, quoi. Bah il pourra pas venir avec son overboard. Et pareil, les drones, j'ai bien aimé les drones qui sont interdits, donc les drones. Et j'ai une petite dédicace à ceux qui ont acheté des canopies. Les sacs de grande taille sont interdits. Quel dommage pour vous. Vous avez acheté un super sac pour ranger vos jeux de société et pouvez même pas l'emmener dans le temple du jeu de société français. Quel dommage, franchement.
Du coup, vous ne pourrez acheter que des petites boîtes de chez Cocktail Game qui rentreront dans une, voilà. Dans une petite poche.
Alors, vous pourrez retrouver Cyrus, Beno FX et Stéphane qui sont sur place.
Voilà, ils se baladeront dans les allées. Si vous voyez
un t-shirt Proxy Jeu.
Voilà, alors c'est un t-shirt noir avec un logo Proxy Jeu sur le devant.
Alors, Cyrus trouve qu'on le reconnaît pas bien de près. Alors, éloignez-vous un peu et revenez les voir.
Et si vous voyez également qu'il se balade avec un badge Proxy Jeu sur le torse,
voilà.
Et un micro à la main, n'hésitez pas à aller leur taper sur l'épaule et voilà. Leur
faire
un petit coucou.
Vous pourrez même parler dans le micro et leur dire ce que vous aimez bien du festival de Cannes, quoi.
Ah, y a un petit truc marrant sur le logo là. Bon, c'est pas très radiophonique. On dirait un Alsacien et une Alsacienne. La photo pour les mineurs.
Ah non, oui, oui, c'est vrai. Ouais, t'as la coupe de cheveux de la petite fille. Ça fait un peu penser à la coiffe alsacienne.
T'étais déjà toi à Cannes ?
Non, j'ai pas eu l'occasion d'aller. Bah, c'est l'autre bout de la France. Attends, moi je me dépasse pas si loin, moi.
Oui, alors que c'est pas plus loin qu'Essen au final.
Oh, quand même un petit peu.
J'ai eu peur que tu me dises que t'étais à la Gen Con déjà. Non, moi j'étais en 2015.
Ouais, et alors c'était une bonne.
Ouais, c'était une bonne expérience.
Bonne expérience. Mm. Bon, il n'y avait pas encore tous les plans Vigipirate aussi.
Non, c'est vrai que les files d'attente étaient assez courtes pour rentrer. Le matin, il fallait quoi, attendre une demi-heure maximum. Tu venais avant l'ouverture à 10h et ça passait très bien.
Ok. Mais si vous n'avez pas la chance d'aller au Festival de Cannes, il y a d'autres festivals, dont ce week-end aussi, donc à Mutzig, donc en Alsace. Le 25 février, il y a les Jeux du Rohan. Alors on vous envoie sur leur site jeuduroan.wordpress.com. Alors Rohan, c'est R-O-H-A-N, comme les cavaliers du Rohan. Et donc ils organisent des murders. Alors bon, pour les murders, c'est peut-être un peu tard pour s'inscrire. Ils ont des murders, du jeu de rôle, mais aussi du jeu de plateau. Donc il y en a pour un peu tous les goûts, quoi.
Et c'est à la salle des fêtes de Mutzig.
Ouais, c'est dans le château du Rouen. Ils ont leur château qui fait médiathèque, cinéma, qui est bien rénové, qui est sympa. Et donc on vous encourage à y aller pour aller jouer à Mutzig.
Et Mutzig, c'est donc en Alsace. Hein,
en Alsace, voilà. Et sinon, c'est pas en Alsace, mais c'est quand même dans l'Est. Ce sera le 10 et le 12 mars, donc 2017. Je précise 2017, hein, des fois que quelqu'un revienne dans 5 ans avec...
Oui, après, on reçoit des réclamations. Voilà.
Dans 5 ans, qu'il retombe sur cet épisode. Donc, 10-12 mars 2017, c'est Jeux et Compagnie, un festival organisé par Place aux Jeux. Alors, PLA2SO Jeux. À Épinal, donc du vendredi au dimanche. Donc les vendredis, c'est plutôt réservé aux scolaires. Et après, voilà, la soirée et le off, c'est ouvert à tous, quoi.
Ouais, c'est jusqu'à 3h du matin.
Voilà, il y a de quoi faire. Donc en 2016,
c'est le plus gros festival de la région Grand Est.
Ouais, dans 2016, ils avaient 12 000 visiteurs. C'est déjà pas mal, quoi. Non.
Et Cyrus sera présent normalement.
Oui.
Dany également de l'équipe. Voilà. Toi, tu feras un petit tour. Hein.
Non, moi je pense pas. Moi,
Non, tu restes dans les travaux.
Moi, j'ai encore des travaux. On vous rappelle que j'ai acheté avec l'argent des tipeurs une grande maison, quoi. Mais la maison, il y avait quand même des travaux. Hein. On a quand même pas assez de tips pour que je puisse payer tous les artisans.
Mais au moins maintenant, on a un studio résident.
Hein. Voilà. Voilà, donc pour les petites infos, pour savoir où sortir. Donc si vous organisez un événement, n'hésitez pas à nous en faire part.
On
relayera l'info. Donc le plus tôt sera le mieux, parce que comme il y a souvent un petit temps entre le moment où on enregistre et où on peut, donc on peut passer l'info et
Le temps qu'on diffuse
et le moment où c'est diffusé. Voilà, il y a
Faut juste que ça rentre dans notre calendrier de diffusion.
Voilà. Donc, si ça arrive avant, nous... l'enregistrement, ça va. Si ça arrive juste après, bah, faut attendre quasiment un mois. Donc, c'est parfois un peu court, quoi. Ouais, mais au pire, on relaye sur les réseaux sociaux.
Sinon, on en fait la pub pour l'année suivante.
Voilà. Alors, on va commencer, donc, après toutes ces digressions, par nos chroniques, parce que nos chroniqueurs, ils ont travaillé quand même. Et on va commencer donc avec Fendoel. Fendoel qui nous parle de Time's Up dans Plateau Numérique. Alors, on l'écoute tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Fendoel et bienvenue dans ce nouveau numéro des Plateaux Numériques. Aujourd'hui, je vous présente l'application Time's Up. Alors en fait, il existe deux applications, application Time's Up Family et application Time's Up Party. Time's Up est un jeu édité une première fois en 1999 par son auteur Peter Sarrett et réédité depuis par Poprod et ou Asmodée avec de nombreuses versions différentes. C'est un jeu de société, alors genre party game, qui se joue en deux équipes. Alors vous le connaissez sûrement, on appelle ça aussi le jeu du saladier, et dans lequel il s'agit de deviner un maximum de mots écrits sur des cartes. Le jeu est jouable, on va dire, avec une dizaine de joueurs enfiévrés sans aucun problème. Il se déroule en trois manches. Durant la première, en fait, chaque équipe a 30 secondes à un sablier pour faire deviner le maximum de cartes avec autant de mots qu'il le souhaite. Dans une deuxième manche, bah en fait, faut dire un seul mot pour trouver encore le maximum de cartes. Et dans la troisième, bah, il faut mimer une carte pour la faire deviner. Et en fait, bah, dès qu'on a écoulé le temps, on va passer la main à l'équipe adverse qui va essayer d'écouler le maximum de cartes, puis on repasse à l'autre équipe, etc., etc., jusqu'à ce qu'il y ait plus de cartes, et ensuite bah, on passera donc à la manche suivante, puis à la dernière, et à la fin on fera la somme des différents points, c'est-à-dire des différentes cartes qui ont été gagnées par chaque équipe durant les trois manches, pour avoir le score final et savoir quel est le gagnant. Le jeu a été adapté en 2016 sur Android et sur iOS par Repoprod, donc en fait par un studio qui a développé ça pour Repoprod, donc qui s'appelle Ideal Edition et Outer Zone Entertainment. Le jeu est gratuit, alors en fait il n'est pas gratuit, il y a des achats in-app. En fait, il est un premier deck de cartes est offert, un premier paquet de cartes est offert, mais on peut acheter des paquets supplémentaires, en fait trois paquets supplémentaires au prix de 99 centimes d'euros, le paquet de cartes supplémentaires. Il n'y a pas de tutoriel à proprement parler. Depuis l'écran principal, on peut accéder aux règles qui s'étendent sur trois panneaux qui expliquent chacun les trois manches qui sont disponibles. Donc la manche 1 décrivée, la manche 2 en un seul mot et la manche 3 mimée qui sont décrits en détail et dans toutes les langues. Esthétiquement, on est sur quelque chose de très simple, mais vraiment tout à fait acceptable, qui est très proche d'ailleurs du style graphique, on va dire, du jeu original, on va dire, dans l'édition actuelle. Ensuite, ils se sont amusés à mettre des sons qui peuvent être assez irritants, mais au moins, on comprend bien ce qui se passe, même si on n'est pas derrière l'écran. Rien que le fait d'entendre le son permet de savoir si la personne a triché ou pas, finalement. Quand elle a appuyé sur le bouton. Concernant les autres fonctionnalités, il n'y a pas grand chose en fait. L'écran, c'est vraiment quatre boutons. On a un gros bouton central où on va pouvoir jouer, un bouton en bas à droite qui permet de regarder les règles, un bouton en bas au centre qui permet d'aller acheter l'un des trois autres decks, donc je l'ai dit à 1 euro pièce, et en bas à gauche, quelques informations sur l'éditeur, Poprod. Mais finalement, on reste vraiment sur quelque chose d'extrêmement simple. Alors concernant le prix, je l'ai dit, en fait l'application est gratuite, avec un paquet de cartes, un seul, ce qui permet d'en faire vite le tour et au moins de voir si vous aimez bien. Et ensuite, pour un prix franchement très raisonnable de 99 centimes, vous pouvez avoir un paquet de cartes supplémentaires. Le prix est le même sur iOS et Android, il n'existe pas sur Windows Phone malheureusement. Alors, voici mon avis. Ben, tout d'abord, j'aime le prix. J'aime pouvoir essayer ce petit jeu par moi-même et puis ben, voir si ça me plaît. Le fait d'offrir un paquet de cartes au début est vachement sympa. Et puis au final, ben, ça permet de le sortir à peu près quand on veut. Le jeu existe en deux versions. En fait, vous avez deux applications. Vous avez un Time's Up Party qui est plutôt pour, on va dire, des gens âgés d'une dizaine d'années. Il faut avoir quand même une certaine connaissance. Et ensuite, bah, on a un Time's Up Family. Alors le Time's Up Family, c'est vraiment plutôt pour les enfants. Donc on se retrouve avec des mots extrêmement simples. Mais c'est bien aussi, ça permet d'éventuellement de jouer avec ses enfants. Ce que je trouve dommage, bah, en fait, c'est un défaut qui n'est pas vraiment un défaut. C'est un défaut qui est bah, que le support numérique vous force à pas tricher. C'est un petit peu compliqué, mais à Time's Up, bah, c'est un party game, et donc il y a le sablier d'un côté, on l'oublie, etc. Donc on peut grappiller quelques cartes, enfin voilà, ça c'est le truc qui est plaisant. Et en fait, ça rend les parties un petit peu rigides. Je dis pas que c'est complètement rédhibitoire, mais je pense que le fait qu'on balance les cartes quand on les a terminées, bah, ça joue quoi dans l'émotion du jeu. Et on perd quand même ce côté avec l'application qui reste quand même assez froide. Voilà, c'est à peu près tout. Ce que j'aime pas, voilà, c'est un petit peu la froideur de l'application. Ensuite, trois decks. Franchement, je trouve ça trop peu. Enfin, quatre decks au total, je trouve ça vraiment trop peu. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Même si vraiment, je le recommande à tout le monde, au moins de le télécharger et puis de l'essayer. Et puis, ça, si c'est bientôt les vacances, si vous êtes en vacances ou si vous allez partir en vacances, n'hésitez pas à le prendre, ça peut servir. Juste comme ça, vous le sortez inopinément dans le train, puis vous jouez avec votre famille. C'est à mon avis une application, au moins, même si vous ne payez pas les decks en plus, à avoir sur son téléphone. Voilà, jouez bien.
Alors merci Fendoel pour cette chronique sur Time's Up. Donc voilà, c'est gratuit, donc profitez-en. Même si après les paquets de cartes sont
voilà sous la forme de DLC et d'achat in-app, mais voilà. Ça permet déjà de découvrir l'application et de voir si on a envie d'investir dans le jeu, c'est pas mal.
Ouais, c'est
la formule est approuvée.
Ouais. Bon après c'est vrai que le jeu en cartes est pas mal aussi quoi. Il se trouve aussi de pas trop cher. Pour jouer, ça prend pas trop de place non plus, quoi. Mais et il disait justement, j'étais d'accord avec lui, que le plaisir de jeter les cartes quand tu l'as fait deviner, ça participe un peu à l'ambiance du jeu.
Tu vas peut-être pas balancer la tablette.
Ce serait un mauvais réflexe, hein, emporté par le...
Par contre, voilà. les paquets de cartes que tu peux acheter en in-app, est-ce que ça correspond aux différentes éditions du jeu? Parce que tu as le Time's Up Family, Time's Up Academy.
Je sais pas si ça veut dire si c'est les différents. Parce que justement, j'avais entendu dans une interview qui disait que faire un 2 ou. Bah, c'était Mathieu Despneaux, je crois, qui disait que faire un 2, ça marche pas, faut mieux faire un autre thème. Et c'est ce qu'ils ont très bien fait avec une autre couleur. Une autre.
En plus, après, t'as un aspect collection. Tu dis, ah, j'ai l'édition. Bah, comme pour les Pokémon. T'as la version gold, argent, rose, rouge.
Ouais, non, ça, je sais pas ce qu'il y a dans les différents paquets de cartes. C'est vrai que. Ils sont peut-être en couleur dans l'application, quoi.
Il y a Agricola qui a fait ça aussi. Les decks supplémentaires sont en achat in-app dans l'application Agricola. Mais tu payes déjà l'application.
Tu payes déjà l'application. Quoi. Ouais,
mais après, ils demandent pas grand-chose. Je crois que c'était 99 centimes le.
Ouais, mais Agricola, moi je joue sans les cartes. Hein.
Ah, tu joues en version family?
Ah, moi je joue en version family toujours. Après, t'as tellement de cartes. Est-ce que tu les utilises forcément? Enfin, moi je trouve pas. Suffit que t'aies des cartes qui soient pas terribles. De toute façon, tu les utilises pas. Parce que ça dépend du tirage quoi de cartes quoi mais
bon moi quand je jouais avec les cartes c'était en pas en version draft parce que là il faut déjà bien connaître le jeu et les combos mais c'était en aléatoire 10 aménagements mineurs et 10 savoir-faire et tu te débrouilles avec ça quoi ça
mais t'en as pas autant dans la partie normalement.
Non, il me semble
que c'est que c'est t'as 7. 3 et 3 je crois, hein. 3 aménagements enfin moi je me de souvenir t'avais pas beaucoup de cartes en main donc ça changeait pas grand chose et du coup j'avais fait une ou deux parties avec et je me dis C'est beaucoup de manipulation de cartes pour pas grand chose.
Ah, parce que moi j'ai pris la variante qui est présente dans l'application, parce que j'ai pas mal joué sur l'application iPad. Et moi j'avais quand même le choix.
J'avais au moins 7 cartes.
Ouais. Ok. Mais par contre, c'était de l'aléatoire. Hein. J'avais pas fait de draft et ni d'écart ni de choix. Quoi.
Ok. Et donc, en parlant de jeu un peu plus velu que Time's Up, on arrive à ta chronique Top 500.
Voilà. Tu vas tout de suite râler parce que j'ai pas pris un jeu dans le Top 500.
Ah bah ouais, bah quand même. Alors, on va rappeler cette chronique. Le Top 1000, du coup. Non, il est pas dans le Top 1000.
Il est à la limite du top 1000. Ah. Il rentre presque. Mais comme je disais dans la chronique, c'est peut-être un jeu qui est à la frontière entre un Soul Buzz et un Top 500 au final, parce que bah, c'est quand même un jeu intéressant, bien réalisé.
On parle de Barony, bien sûr.
Oui, Barony. Édité chez Matago. Ouais. Un jeu de Marc-André illustré par Ismaël. Et bah, moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Je me suis précipité sur son extension qui est sortie en tout début d'année, l'extension Sorcery, qui permet notamment de jouer à 5 joueurs et qui rajoute des petits pouvoirs pour rajouter un petit peu de piquant dans le jeu et rajouter une dimension tactique supplémentaire. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, peut-être que j'en reparlerai un jour.
Ouais.
J'avais pensé peut-être un jour faire une espèce de chronique top 500des extensions. Parce que la plupart des jeux que j'ai chroniqués possèdent une extension. Donc ça serait peut-être pour la fin de la saison, pourquoi pas, voilà, avoir une espèce d'épisode. Voilà, une compile de toutes les extensions des jeux qui ont été présentés dans le top 500.
Ouais. Bah écoute, on va écouter ta chronique tout de suite.
Salut les joueuses et salut les joueurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top 500 BGG. Dans cet épisode, je vais vous parler de Barony, c'est un jeu de Marc-André, édité par Matago, sorti en 2015 et illustré par Ismaël. Le jeu pointe à la 1074e place au classement BGG, et là j'entends déjà des déralés parce que j'ai pris un jeu qui n'est pas dans le Top 500. Néanmoins, le jeu capitalise une note de 7 points sur BGG, et on est un peu à la frontière entre un Top 500 et un Soul Buzz. Le jeu nous plonge dans une thématique médiévale et propose aux joueurs d'incarner une dynastie ou une maison de noblesse dont le but est de gravir les échelons des titres de noblesse pour atteindre le titre final de duc qui vous ouvrira les portes de l'accès à la couronne du roi. Le principe repose sur du contrôle de territoire et de l'expansion de son domaine. Il faudra également veiller à bloquer l'expansion des autres joueurs. La carte de jeu est représentée par un plateau modulable composé de triplés d'hexagones représentant différents types de terrains. On va retrouver des lacs, des plaines, des forêts, des champs et des montagnes. Pour étendre son royaume, on va pouvoir construire des cités, des villages et des forteresses. Et des chevaliers nous permettront de nous déplacer dans le but de réaliser ces futures constructions. Et pour pimenter le tout, il y aura des restrictions en fonction de la typologie de la construction et du terrain. On ne pourra pas construire n'importe quoi, n'importe où. Au début de la partie, on va placer 3 cités qui vont représenter nos zones de démarrage et on va pouvoir les placer à différents endroits de la carte. À son tour de jeu, on aura 6 actions disponibles différentes. On va pouvoir recruter des chevaliers qui vont nous permettre de se déplacer sur le terrain ou d'attaquer les villages adverses. On va pouvoir construire des villages, construire des forteresses, établir de nouvelles cités ou encore acquérir un nouveau type de noblesse si on a suffisamment de ressources. Les ressources, on va les gagner lorsque l'on va construire des villages sur les différents types d'hexagones. Et le nombre de points de ressources que l'on va récupérer va dépendre du type de terrain. Les terrains les plus fertiles comme les champs ou les plaines vont nous rapporter plus de points de victoire, alors que les forêts et les montagnes nous en rapporteront moins. Donc on se retrouve à une dimension stratégique. Vaut-il mieux construire sur les terrains les plus fertiles ou au contraire essayer de construire dans les forêts ou dans les montagnes en bénéficiant soit de la protection des montagnes, soit du fait que les villages dans les forêts attirent moins la convoitise des autres joueurs pour une attaque. Sachant qu'une attaque a un certain coût puisqu'il va falloir la planifier pendant plusieurs tours. D'ailleurs la résolution des attaques est assez simple. On compare le nombre de pièces de l'attaquant contre le nombre de pièces de l'ennemi. Donc si un village est tout seul, il suffit de ramener 2 chevaliers sur la case du village pour le raser. Et le vainqueur va voler au vaincu une ressource, généralement la plus rentable. Alors une des stratégies, c'est de limiter le stock total de ressources que l'on a et de tenter de les convertir en achat de titres de noblesse le plus rapidement possible, sachant qu'il faudra à chaque fois 15 points de ressources pour acheter un nouveau titre de noblesse. Alors le jeu présente également une grosse dimension tactique, notamment avec la construction des forteresses qui, comme leur nom l'indique, ce sont des places fortes. Donc ce sont des bâtiments qui ne pourront jamais être détruits une fois placés. Chaque joueur en dispose de deux. Et ces bâtiments permettent d'affirmer sa position dans une zone de la carte. Alors le tableau de score, c'est un tableau à deux dimensions. Non seulement on a le score qui va augmenter au fur et à mesure des titres de noblesse que l'on va acquérir, mais on va également gagner des points lorsque l'on va fonder de nouvelles cités. Donc au final, avec ce tableau à deux entrées, en fin de partie, c'est pas forcément le joueur qui a en premier atteint le titre de duc, puisqu'il faudra également compter le nombre de cités qui ont été construites et les éventuelles ressources supplémentaires qui sont en stock, qui n'ont pas été dépensées pour acheter des titres de noblesse. Alors le jeu a néanmoins la facette d'un jeu relativement abstrait, malgré la thématique développée. Et si vous avez aimé des jeux de placement comme Taluva ou Tigre Euphrate, ce jeu devrait vous plaire. Les tours de jeu s'enchaînent très rapidement puisqu'on n'a qu'une seule action à réaliser et les parties durent environ 45 minutes. La meilleure configuration de jeu reste celle à 4 joueurs, ça évite notamment, lorsqu'on n'est que 3, de se liguer à 2 contre 1. Le jeu propose un matériel abondant avec un prix relativement contenu puisqu'on le trouve à 34,90 chez notre partenaire Philibert. On a énormément de pièces en bois dans la boîte et également beaucoup d'hexagones pour, à chaque partie, réaliser une nouvelle carte avec une configuration différente. Donc si vous êtes contre l'abolition des privilèges et que vous voulez devenir duc, essayez Baronnie. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Et d'ici là, jouez bien.
Ben, merci, belle chronique. Alors moi, j'ai juste un petit reproche parce que c'est un jeu de placement et il n'y a même pas de mouton. Ça, c'est le point qui m'avait le plus frustré dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de mouton.
Ben, il faut peut-être attendre la prochaine extension.
Ah, ça peut-être, je vais écrire à Matago. Nous faut une extension avec...
Voilà, une extension élevage, par exemple, pour voir.
Voilà, ensuite, Yannibus nous emmène sur la route du thé avec le jeu Yunnan.
Alors, prononciation officielle.
Attention, je te laisse faire.
C'est le Yunnan.
Le Yunnan.
C'est une province à l'ouest de la Chine.
Ok.
Juste en dessous du Tibet.
Ok, je n'y étais pas moi. Tu y étais toi ?
Ouais, j'étais cet été.
C'est pour ça que tu le prononces mieux que moi.
Voilà, c'est ça.
Ok, ben on va écouter Yannibus qui va nous parler donc de Yunnan. Sous le buzz par Yannibus.
Salut les joueurs, salut la Proxy Team. Comme convenu, je vais vous chroniquer pour ce mois-ci un jeu beaucoup plus costaud que ce que j'ai pu faire dans les derniers mois. Faites chauffer votre bouilloire, nous partons en Chine sur la route du thé avec Yunnan. Yunnan est un jeu de Aaron Haag, sorti chez Argentum Verlag, je crois, à Essen 2013. Il est disponible chez notre partenaire Philibert pour un prix autour de 30 euros. Alors faites attention, c'est la version anglaise, mais les composants sont complètement indépendants de la langue. Il y a aucun texte sur les composants du jeu, donc pas de souci. Et la règle en française est disponible très facilement sur plusieurs sites, comme Joli Jeu, comme Board Game Geek. Dans Yunnan, 2 à 5 joueurs vont s'affronter pendant environ 90 minutes, compter 2 heures pour des joueurs comme moi un peu plus lents, autour donc de la route du thé en Chine au Xe siècle. Dans Yunnan, vous allez devoir utiliser au mieux vos commerçants pour les placer soit sur des enchères, et ça c'est la première partie du jeu, soit les déplacer en fait sur une représentation justement de cette route du thé. Dans la phase d'enchères, vous allez pouvoir donc, comme son nom l'indique, enchérir sur différents bâtiments qui vont vous permettre d'améliorer vos capacités de déplacement, votre prestige, vos possibilités en fait de construction, puisque vous allez pouvoir dans les différentes régions construire deux bâtiments différents ou des ponts, ou alors de positionner vos commerçants sur le marché, c'est-à-dire prêt au départ. La seconde phase de jeu, donc c'est là où vous allez déplacer justement vos commerçants sur la route du thé, vous allez pouvoir les déplacer comme vous pouvez vous l'imaginer, en fonction de vos capacités qui peuvent augmenter en fonction des enchères que vous avez placées avant, et ensuite en gardant en tête que à chaque fois que vous terminez un déplacement, vous pouvez déplacer, si vous avez plus d'influence que les joueurs qui sont déjà présents sur cette région, vous pouvez renvoyer des commerçants adverses dans des régions adjacentes. Vous allez également pouvoir déposer des comptoirs pour créer des routes en fait continues entre des commerçants et vos comptoirs, vous allez également pouvoir placer des ponts qui sont en fait des raccourcis pour passer d'une région à une autre. Vous allez enfin pouvoir construire des maisons de thé dans les différentes régions. Une fois les placements effectués et puis les renvois à domicile effectués par vos adversaires, il va y avoir le percepteur qui va se déplacer dans les régions et encore une fois en fonction du prestige va renvoyer à domicile les commerçants des joueurs qui auront le moins de prestige. Une fois que le placement final est déterminé, c'est-à-dire que les différents commerçants ne bougeront pas des régions, chaque région rapporte de l'argent à son propriétaire et ainsi va pouvoir réaliser les phases d'enchères suivantes. La fin de partie est déclenchée par deux choses. La première, c'est un joueur atteint 80 points de victoire ou plus, où il ne reste aucun cadeau. Oui, en fait, sur les régions, vous allez voir, il y a des cadeaux qui sont placés, qui sont distribués à chaque tour. Et en fait, à chaque fin de manche, vous allez pouvoir transformer de l'argent en points de victoire. Donc, vous allez devoir regarder ce qu'il vous faut conserver pour les enchères des tours suivants, mais également investir dans vos points de victoire pour pouvoir les consommer à la fin de la partie. Yunnan est un jeu complètement, donc là c'est un peu le pitch du jeu, c'est un argument commercial du jeu, c'est un jeu complètement sans hasard. Effectivement, il n'y a pas de hasard du tout possible en termes d'enchaînement, il n'y a pas de cartes qui apparaissent, il n'y a pas de dés, il n'y a rien du tout. Donc effectivement, vous avez complètement tout visible en permanence. Ce que j'aime dans Yunnan, c'est les phases de jeu en deux parties, avec une première phase d'enchères et une deuxième phase, on va dire, plutôt d'action, qui n'est pas sans se rappeler Cyclades, qui est un peu du même acabit, mais par contre avec des mécanismes, que ce soit des mécanismes d'enchères ou des mécanismes d'action, quand c'est complètement différent, mais il y a bien une cadence en fait dans les tours de jeu qui est bien différenciée. Enfin, ce que j'apprécie également très fortement dans Yunnan, c'est qu'il y a énormément d'interactions pour un jeu à l'allemande. C'est vraiment un jeu où on peut se faire des ennemis, même si vous jouez avec des amis, les coups de bip sont extrêmement nombreux, fréquents, et à la limite, pour gagner, il faut que vous anticipiez les déplacements qu'on va vous faire et les déplacements que vous allez imposer à vos adversaires. L'ordre du jeu est ainsi très très important, et celui-ci est déterminé à chaque tour. Voilà, j'espère que cette chronique vous a donné envie d'explorer la route du thé avec Yunnan. Et avant de partager un petit biscuit au gingembre, jouez bien.
Donc Yunnan, jeu de cube en bois, la gestion, les jeux que Yannibus apprécie particulièrement.
Ouais, voilà. Et donc, y avait des cubes en bois aussi sur la route du thé à côté de... Ou pas forcément.
Non,
il y avait des arbres, c'est ça.
Il y a que les baguettes en bois.
Ok, et donc du coup, dans Proxy Jeux, il y a proximité, et donc moi je suis allé, moi-même personnellement, je me suis déplacé, tu vois, je suis quand même sorti de ma maison avec mes travaux, et je suis allé à la rencontre de Christian Lemay.
Au Québec. Donc,
non, malheureusement pas, c'est lui qui a fait le déplacement jusqu'à Strasbourg.
Voilà, donc c'est la proximité des invités.
C'est ça.
C'est pas les chroniqueurs qui engendrent la proximité, c'est l'inverse.
Non, quand ils viennent voir notre sponsor, on remercie notre sponsor Philibert d'attirer des auteurs, des éditeurs, enfin plein d'acteurs du monde ludique, ouais. À Strasbourg, et du coup moi je leur saute dessus au passage. Hey, prenez 5 minutes pour entre deux présentations de jeux pour parler un peu de...
Alors on les attrape au passage et on leur pose quelques questions, ouais.
Donc on va écouter mon interview tout de suite. Oui, c'est Dédé Schütz en direct du Grafalgar, un superbe hôtel qui accueille aujourd'hui Christian. Salut Christian.
Bonjour, Dédé Schütz et tout Proxy Jeux.
Alors vous aurez remarqué à son accent québécois que c'est Christian Lemay du Scorpion Masqué qui vient dire un petit coucou à nos amis de chez Philibert. Et du coup, moi, je le chope au passage pour lui poser quelques questions. Alors ça va, remis du décalage horaire ?
Ça fait 2 jours que je suis en sol européen, donc probablement que je suis dans le bon fuseau horaire, je l'espère.
Ok. Alors, donc, tu es à Strasbourg pour voir Philibert, pour leur présenter, donc, pour présenter en boutique tes deux nouveaux jeux. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, bien sûr. Donc, le premier jeu qu'on va sortir le 24 mars prochain sera Mot pour mot, un jeu d'ambiance et de lettres dans lequel deux équipes s'affrontent. Et le but du jeu, c'est d'extirper, de sortir du plateau les lettres, des lettres de l'alphabet. Donc, le plateau, en fait, est en forme de ruelle. Il est très allongé. Et au milieu du plateau, on dispose 17 lettres. À son tour, une équipe se voit imposer une catégorie, par exemple quelque chose de poilu, et l'équipe active a 30 secondes pour donner un mot qui correspond à la catégorie, par exemple chat. Et là, on va épeler la réponse, donc le mot chat, en tirant vers soi d'un cran chacune des lettres qui composent le mot. Et tout ça dans le but qu'une fois que ça fait trois fois qu'on a tiré une lettre vers soi, elle va être sortie du plateau, et quand une équipe a sorti 6 lettres, elle remporte la partie. Évidemment, à son tour, l'équipe adverse va se voir imposer une nouvelle catégorie, par exemple quelque chose, un objet utile contre un zombie.
Le chat ne fonctionne plus là dans ce cas-là.
Non, le chat ne fonctionne plus. Par contre, on peut trouver une bonne réponse qui aura plus de lettres tronçonneuses. Et là, toutes les lettres vont être retirées de l'autre côté. Et comme je vous disais, il y a une espèce de forme de tir à la lettre qui va se faire entre les deux équipes parce qu'on va chacun tirer de notre côté.
Oui, comme les tirs à la corde. Et donc, du coup, le C de tronçonneuse, c'est comme le C de chat. Et donc, la lettre C, elle revient au milieu, c'est ça?
Elle va revenir au centre, exactement. Donc, on va chercher des mots qui ont de nombreuses lettres. On va chercher aussi des mots souvent avec des lettres doubles. Ça, c'est payant parce qu'on bouge deux fois la lettre vers soi. Et au début, on cherche, comme je disais, des mots qui sont assez longs, mais plus le jeu avance, plus on va chercher à jouer, j'allais dire, stratégiquement. Parce que les lettres qui sont sorties du plateau, on peut toujours s'en servir, mais elles ne bougent plus. Alors là, il faut trouver des lettres qui vont soit nous permettre de sortir celles qui sont près du bord pour marquer les points, ou on va essayer de choper celles des autres. Donc nous, moi, j'ai justement le C qui est tout près de sortir. Vous allez peut-être essayer de trouver un mot avec C pour me rendre la vie plus difficile. Alors c'est un heureux mélange entre le jeu d'ambiance, parce que c'est un jeu d'équipe, ça se joue très rapidement, on a 30 secondes pour trouver la réponse, c'est très excitant. Et à la fin, ça devient presque un jeu de stratégie, donc un curieux et heureux mélange.
Ok, ben on testera ça à Cannes.
Oui, alors ce sera en avant-première à Cannes, et on aura aussi en avant-première le jeu La Légende du Wendigo, qui va sortir en avril en boutique. Donc, la Légende du Wendigo, c'est un jeu dont je suis l'humble auteur et qui va dans notre gamme Petit Monstre. Donc, la gamme Petit Monstre, c'est la gamme pour enfants qui s'adresse à nos petits monstres, justement, et dans lequel il y a à chaque fois des petits monstres. Donc, peut-être vous connaissez La Chasse aux Monstres d'Antoine Bouza, À la Bouffe de Roberto Fraga, et là, il y aura La Légende du Wendigo. C'est un jeu semi-coopératif ou asymétrique dans lequel il y a un joueur qui incarne le Wendigo et qui affronte tous les autres joueurs qui sont des petits scouts pris dans un camp en forêt et qui sont attaqués par l'effroyable bête tirée des légendes amérindiennes. Le Wendigo est une créature au cœur de glace qui va prendre possession d'un des scouts. Donc sur la table, on a 32 tuiles scouts. Et ils sont tous un petit peu pareils, mais ils sont tous un petit peu différents aussi. Et donc, il y a une tuile scout qui va être remplacée par une tuile Wendigo. Mais ils sont identiques. Il y a juste le verso qui nous permettrait de les distinguer. Et chaque nuit, pendant que les scouts ont les yeux fermés, le Wendigo va aller en enlever ou en dévorer un autre. Parce qu'on aime bien ça quand on est enfant. Les bêtes qui dévorent, le grand méchant loup qui dévore les autres.
C'est surtout quand on est Wendigo, on aime bien dévorer des petits scouts aussi.
Voilà, mais il ne faut pas le dire trop fort quand même, c'est pour les enfants de 6 ans et plus. Bon, alors le Wendigo, il va retirer une tuile scout, celle qui est dévorée, et déplacer la tuile Wendigo, qui est anonyme parmi toutes, à l'endroit où était la tuile qu'il a enlevée, qu'il a dévorée. Donc là, je sais que sans visuel, c'est un peu plus difficile à comprendre, mais en fait, on a juste retiré une tuile et déplacer la Wendigo. Les joueurs rouvrent les yeux, les scouts, et là, il faut trouver qui est le Wendigo. Donc, quelle est la tuile qui a bougé? On voit, il y a un trou parmi les 32 tuiles qui étaient sur la table. Donc là, on voit d'où elle est partie, mais il faut trouver là où elle s'est rendue. Et c'est tout. Il n'y a pas plus de règles que ça. Il faut que les scouts trouvent en 5 tentatives ou moins. Voilà.
Ok, ouais, donc observation, concentration et mémorisation, quoi.
Oui, surtout observation et mémorisation. Et c'est un jeu pour enfants, mais qui a la... Contrairement à plusieurs autres jeux, où les adultes s'en mettent vraiment pas, voire s'amusent autant que les enfants. On a des cas, par exemple, la chasse aux monstres, c'est un jeu beaucoup plus pour enfants. Je veux dire, l'adulte a moins d'intérêt. Par contre, dans Wendigo, on a vraiment... On est pris par le jeu et est assez, c'est un challenge assez amusant pour les adultes aussi.
OK. Alors, justement, le... ça m'amène à une autre question. Le Wendigo, ici en France, on ne connaît pas trop ce monstre-là. Et je me posais la question, justement, comme tu viens de l'autre côté de l'océan, comment est le marché, en fait, au Québec et au Canada pour ce que tu peux en voir?
Vaste question.
Alors, par exemple, le titre La Légende du Wendigo, ce sera un titre français. Est-ce que tes titres sont toujours traduits en français, ou est-ce que des fois tu gardes des versions québécoises?
Alors, il m'est arrivé une fois, il y a 2 ou 3 ans, de publier un jeu avec un titre différent au Québec et en France. Donc, c'était « Tu dors au gaz » au Québec et « Qui dordine » en France. Je croyais que c'était une bonne idée parce que « Tu dors au gaz » est une expression vraiment amusante qui veut dire en fait que t'as manqué une opportunité parce que t'étais assoupi ou t'étais pas attentif. Donc, par contre, au niveau du marketing, ça a été très, très compliqué. Et au final, je vais continuer à faire comme je fais depuis le début, c'est-à-dire avoir la même boîte littéralement qui est vendue au Québec et en France. Quand on rédige les règles, j'essaie d'avoir le français le plus neutre possible. Parfois, je vais me permettre certaines fantaisies. Là, par exemple, dans la chasse aux monstres, tiens, il y a une tuile avec une chaussette, mais nous, on appelle plutôt ça un bas. Donc, j'ai quand même conservé le mot bas. Je ne peux malheureusement pas écrire qu'on pige une carte, parce que piger une carte au Québec, ça veut dire la tirer d'un talon. Et c'est, en fait, c'est drôle parce que c'est pas un québécisme, c'est vraiment juste une forme vieillie qui a été oubliée en France. Par contre, on ne pioche jamais de cartes dans une règle au scorpion masqué. On va la tirer, mais...
Parce qu'il n'y a pas l'accessoire, la pioche qui va avec, c'est ça?
Voilà, si on pioche la carte, en fait, on va lui faire mal. Donc, j'essaie d'avoir un français plutôt neutre, avec peut-être parfois quelques traces de québécisme qui sont facilement compréhensibles quand même. Au niveau du joueur...
Parce que je sais qu'au Québec, vous avez l'OQLF, l'Office québécois de la langue française. Est-ce qu'ils t'ont déjà repris sur des titres, ou est-ce qu'ils t'ont déjà imposé des choses, ou t'es pas assez une star pour ça?
Ah non, mais l'OQLF manque cruellement de moyens pour faire ce travail-là. Donc, essentiellement, l'OQLF est là beaucoup pour s'assurer qu'on respecte ce qu'on appelle la loi 101, donc la loi sur la langue française au Québec, qui oblige notamment les commerçants à s'afficher en français, ou si on a un titre anglais, par exemple Starbucks, bon, ils doivent ajouter le mot café en français, ce genre de truc-là. L'emballage doit... Tout ce qui est vendu au Québec doit avoir une version française, des instructions, à moins d'être un produit culturel. Par exemple, on n'ira pas traduire un CD de musique country américain. Mais sinon, l'OQLF fait plutôt ça que vérifier si mon français est trop québécois ou trop franco-français. Là. Ça, c'est pas de leur souci.
OK. Et du coup, les joueurs au Québec, ils sont comme nous, ils cherchent des infos, et tu me disais qu'ils vont plutôt sur des sites américains, du coup.
Pour une raison que je m'explique à moitié seulement, je pourrais pas dire pourquoi, mais disons, les gros joueurs, les gamers, ceux qui se tiennent au courant, qui se tiennent informés de l'actualité ludique, qui cherchent les dernières nouveautés, ils vont plutôt chercher leur information et se font plutôt influencer par Board Game Geek. Ils vont jouer au final essentiellement au même jeu qu'ici. Ils vont jouer à Orléans, ils vont jouer à Race for the Galaxy, ils vont jouer à des jeux de cartes évolutifs, souvent dans la version anglaise, parce que la version anglaise, elle arrive plus tôt, quand c'est la version originale, on s'entend, d'un jeu américain. Elle arrive plus vite chez nous que la version française et elle est souvent bien moins chère. Donc, plusieurs arguments qui touchent le cœur du joueur. peut-être aussi le format de Trick-Track est moins, plaît moins, j'allais dire culturellement, aux joueurs, mais ça, c'est un peu, on commence à faire de la psychologie à 5 sous, là, je me lancerai pas là-dedans.
Ok, d'accord. Et du coup, c'est les jeux, la disponibilité des jeux, c'est donc plutôt des jeux en anglais où vous avez les deux, mais les gens ils choisissent plus la VO.
Donc, dans le cas d'un jeu américain, on va choisir la VO, comme je disais, parce qu'elle est moins chère ou elle arrive plus vite. Dans le cas, sinon, d'un jeu français, ce qui va arriver aussi souvent, c'est que bon, disons, je sais pas moi, un jeu qui est très attendu, ben le temps qui transige en France et après, ben là, il est renvoyé au Québec, donc on a facilement 2 mois d'attente de plus. On va choisir une version française quand même quand il y a beaucoup de texte. Un jeu, j'en ai pas en tête, mais bon, imaginez un jeu avec beaucoup de texte sur le matériel, on va le choisir en version française. On va le choisir en version française aussi quand, souvent, si c'est un jeu d'ambiance ou plutôt léger, et qu'on va jouer avec des gens, c'est pas tout le monde qui est égal devant dans le bilinguisme. Donc, il y en a qui sont, qui pour jouer avec leur famille, qui sont moins à l'aise en anglais, vont choisir la version française. Mais sinon, un joueur qui va jouer avec son groupe core de joueurs alpha va choisir généralement la version anglaise.
Ok, d'accord. Ouais. Et ton marché, toi, en tant que Scorpion masqué, c'est plutôt la France ou le Québec en part? C'est plus quoi? C'est plus là ou plus?
Alors, j'ai sorti les chiffres l'an dernier. Misère, je les ai oubliés. Alors, je travaille avec un peu plus d'efforts, mon Dieu. Non, je traite les... En fait, c'est parce que je les traite différemment. Il y a certains efforts que je vais faire au Québec que je ne ferai pas en France et vice-versa. Donc, au Québec, je suis sur place, donc je travaille le terrain. Je fais de la formation en boutique. Donc, les gens qui sont en boutique reçoivent la visite de quelqu'un du Scorpion masqué et puis on les fait jouer à nos jeux pour qu'après, ils puissent les recommander. C'est une discussion que j'avais justement avec des gens de Philibert hier soir. Mon public cible, moi, je fais du jeu d'ambiance, du jeu très léger, donc je m'adresse pas spécialement à des joueurs qui se tiennent tous les jours sur Trick-Track et BGG, justement. Monsieur, madame, tout le monde qui cherche un truc pour s'amuser le samedi soir ou agrémenter le party du temps des fêtes, ben pour le rejoindre, c'est pas en postant une news sur Trick-Track que je vais le rejoindre le plus. Et donc, c'est pour ça que je me fie sur le travail de la boutique pour les rejoindre. Au niveau des parts, de mémoire, le marché... québécois est à peu près 40% de mon chiffre d'affaires et le marché français 30%. Donc, c'est quand même assez semblable, malgré le fait que le marché québécois, techniquement, est 10 fois moins grand. Oui.
Il y a beaucoup, la France, il y a beaucoup plus de gens qu'au Québec, quoi. Donc,
Oui, mais ce qui arrive, ben évidemment, je suis quelqu'un local, donc j'ai un peu plus d'attention et on est tous chauvins. Je veux dire, quelqu'un qui est un éditeur français a plus d'attention parce que il est français, parce qu'on le connaît, parce qu'on l'a croisé. On est tous un peu comme ça. Et puis, où je m'en allais déjà. Oui, c'est ça. Donc, le marché du Québec est encore plus grand pour moi parce que c'est ça, je suis de la place et puis c'est plus facile de faire des opérations qui portent. Petit à petit, quand même, mon chiffre d'affaires en France grandit parce que j'atteindre une certaine reconnaissance à la fois du milieu et des joueurs. On a fait aussi récemment des jeux qui sont pas joueurs, mais qui ont des mécanismes un peu plus joueurs. Par exemple, on a lancé l'an dernier Maudite Momie, qui a été très, très bien reçu. Vraiment, on a eu que des éloges. J'ai agréablement surpris.
Oui, il y a Cyrus chez nous qui nous a fait au moins 5 émissions là-dessus.
Et donc, si on compare, par exemple, Le Monde est fou à Maudite Momie. Le Monde est fou, c'est un jeu qui se vend très, très bien quand même. On est à 300-400 exemplaires par mois, c'est ce qui est bien. Et Le Monde est fou a quand même, et là je veux vraiment pas parler de plaisir ou de qualité de jeu, mais je vais juste parler d'avancement ou de il y a plus de mécanismes dans Maudite Momie. Il y a trois actions et puis il y a des conséquences, le truc. Tandis que le monde est fou, c'est une ligne de règles essentiellement. Et ça fait en sorte que par les joueurs français justement, qui sont des vecteurs importants, même si c'est pas notre premier public, il y a une certaine reconnaissance, je crois, qui se gagne par là. Il y a une reconnaissance aussi qui se gagne par le professionnalisme de nos boîtes, la direction artistique. On a revu le logo. On a maintenant un directeur créatif solide dans la personne de Manuel Sanchez, qui est un expatrié français, justement, qui demeure au Québec depuis 2008. Et je crois que tout ça se fait ressentir. On met un peu plus d'argent sur Trick Track, où on se fait voir plus dans les festivals. Donc, cette reconnaissance-là fait en sorte que notre notoriété en France augmente et notre chiffre d'affaires aussi. Mais on ne travaille pas de la même façon, ou c'est pas de la même façon, en fait, qu'on se fait connaître ici, qu'on se fait connaître au Québec.
Ouais, mais tu traverses quand même l'océan pour venir au Festival de Cannes, pour venir chez Philibert. C'est quand même une implication aussi.
Oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est quand même infiniment moins que ce que je vais faire au Québec. Donc, je viens en France une fois par année, je vais voir une boutique ou deux, et puis ça s'arrête là. Tandis qu'au Québec, on fait une trentaine, quarantaine de boutiques, on fait des beaucoup plus de festivals, des événements, donc l'effort est vraiment différent, en fait.
C'est vrai que dans les pubs cafés de Laurent Dolph et le Colonel Moutarde, je pense que pour toi, ça doit être pas mal, des soirées où tu dois aller régulièrement.
Pas tant, mais pas personnellement. J'en vois quelqu'un qui travaille pour Scorpion Masqué, mais là, on a une tournée de mots pour mots qui commence au printemps. Et donc, on va justement s'assurer de faire une soirée dans chacun de ces lieux-là. Et les pubs ludiques poussent comme des champignons au Québec. Donc, j'espère bien rejoindre les gens à travers cette tournée-là.
Ok. Bon, à Strasbourg, on n'a pas trop de bars ludiques, mais avec Philibert qui nous fait une animation tous les deux soirs dans un bar différent, c'est pas mal aussi, quoi. Voilà, t'avais quelque chose d'autre à ajouter sur le marché ou sur le Scorpion Masqué?
Mon Dieu, sur le marché, ça prendrait des questions plus précises.
Non, ben voilà, on a fait une petite interview comme ça, je t'ai pris au réveil à midi. voilà, donc maintenant, on va te souhaiter un bon salon de Cannes, parce que ça vient ce week-end. Normalement, vous l'entendrez tout juste avant. On va donc te libérer pour que tu puisses aller visiter la belle ville de Strasbourg. Alors, salut et à bientôt.
Eh ben merci beaucoup pour l'entrevue et puis au plaisir.
Une très belle interview, ne trouve pas.
N'est-ce
et donc
pas
voilà, on a un peu plus parlé du jeu au Québec, comment les différences du marché marché français, marché québécois. Donc
c'est une grosse influence des jeux Améritrash au Québec de par la proximité des États-Unis.
Ouais, bah oui, justement, ouais, un petit peu.
J'ai pas écouté ta chronique, hein, donc voilà. Je pose des questions à blanc.
Non, mais oui, mais pas que, quoi. C'est un peu tout. Il nous disait donc dans l'interview que c'est plutôt BGG que Trick Track qui influence les joueurs québécois.
Ouais, en fait, on parlait d'influence de l'Améritrash. Ça me faisait juste penser à la chronique, la présentation vidéo de Tom Vassell sur Barony que j'avais regardé, ouais. Où on sentait un petit peu la petite frustration et le manque dans le jeu de son point de vue.
C'est ça.
Non, plutôt de l'aspect Améritrash, si tu veux, l'aspect conflit qui est présent dans Barony, mais qui est peut-être pas assez violent.
On peut quand même virer son adversaire.
Ah oui, on peut lui raser ses villages, voilà, le piller. Mais c'était. Disons que c'est des conflits assez gentils.
Ah bah. Ouais. C'est pas assez. J'ai l'impression qu'il aime plus se mettre sur la gueule.
Voilà, c'est.
Il préfère Kemet.
Kemet, voilà, ouais, je pensais à Kemet.
Ouais, bah justement, il nous a dit. Je discutais avec Guillaume Montiège qui a dit que ils l'ont vu donc à Essen au mois d'octobre et qu'ils ont pas mal discuté de Kemet et Guillaume me disait que voilà, il lui a présenté la prochaine extension Et qui sentait qu'il, voilà, que c'était un gros joueur de Kemet et qui voyait les implications dans le jeu de base de la nouvelle extension, quoi. Et ça lui faisait super plaisir, quoi, qu'un mec, voilà, un influent comme ça américain aime bien son jeu, quoi.
Et donc une deuxième extension de Kemet de prévu?
Je crois qu'il travaille encore sur une extension, quoi.
D'accord. Donc affaire à suivre.
Voilà, affaire à suivre.
C'est peut-être pas un spoil, hein, ou c'est un truc...
Je sais pas, je pense pas. Sinon, vous l'aurez appris chez Proxy. Et donc, dernière chronique, et non des moindres, La Grande Évasion. Alors, bien sûr, c'est pas le film. Hein. À chaque fois, on a un chroniqueur qui nous fait une chronique sur un jeu qui a un titre de film. On a eu Rush Hour la dernière fois. Yannibus, il nous a fait Metropolis aussi.
Bon, j'essaie d'en chercher un, alors, pour le prochain Top 500.
Voilà, un autre jeu qui a un nom de film aussi, quoi.
Ah, j'ai déjà fait Manhattan Project.
Alors, La Grande Évasion, donc un jeu de 1990 par le même auteur que Coco Crazy. Alors, je ne sais pas si tu avais joué à Coco Crazy. Je dédicace à Job, avec qui on a beaucoup joué à Coco Crazy quand on était enfant.
C'est le jeu avec les gobelets et les caca de lapin.
Non, c'est pas avec, celui-là. Avec des gobelets, mais en forme de noix de coco, dans lesquels il y a des singes de couleur et où on mélange les singes. C'est un genre de memory où on mélange les noix de coco et après il faut essayer de retrouver les singes de couleur.
C'est une épreuve de Fort Boyard.
Voilà, c'est un peu une épreuve
avec
de Fort
Boyard. Le mec qui souffle quand il déplace les gobelets. Non, mais j'ai confondu avec le jeu où tu dois balancer, t'as des petites catapultes.
Ah, ça c'est Crazy Coconut. Ça, ah, c'est... Bah,
tu me diras, le nom est assez proche.
Voilà, ouais. Bah, on écoute Danny tout de suite.
Salut à tous, aujourd'hui on va voyager un peu moins loin dans le temps car je vais vous parler d'un jeu des années 90, La Grande Évasion. C'est un jeu publié en France par Ravensburger en 1990. Un jeu de Ayo Buken, auteur notamment de Coco Crazy, un petit jeu très rigolo des années 80 dont je vous parlerai peut-être une autre fois. J'ai choisi de parler de ce jeu-là car j'y ai rejoué récemment et je l'ai prêté à des amis joueurs qui l'ont tous vraiment apprécié. Je me suis donc dit que ça valait le coup d'en parler un peu plus largement. Comme son nom l'indique, le jeu a pour thème des prisonniers qui s'échappent. Il y a 7 prisonniers qui doivent monter dans des bateaux pour s'échapper. Chaque prisonnier est représenté par un pion et un dé de la même couleur. Les joueurs vont parier secrètement sur l'ordre d'arrivée des prisonniers au tout début de la partie. À son tour, le joueur va choisir 3 dés et ainsi faire avancer les prisonniers de son choix. Les pions avancent du nombre de points indiqués par les dés et le joueur choisit l'ordre dans lequel il les fait avancer. Au fur et à mesure de l'arrivée des prisonniers, on réduit le nombre de dés utilisés. Au cours de la partie, vous faites donc tout pour que les pions arrivent dans l'ordre sur lequel vous avez misé. Blocage, reculage, avançage, bluffage, tout est permis ou presque. Et la partie évolue au rythme de la stratégie de chacun. Quand tous les prisonniers sont arrivés, on compte les points. Chaque pari réussi permettra de gagner entre 1 et 4 points selon la valeur du bateau sur lequel le prisonnier a pu embarquer. Vous avez par exemple plus intérêt à réussir le pari du dernier arrivé, qui vaut 4 points plutôt que celui du premier arrivé, qui ne vaut qu'un point. C'est simple, super efficace et plein de suspense. C'est un jeu avec une boîte un peu plus grande qu'un mini Ravensburger et un très chouette matériel. Les pions gravés et les dés colorés sont notamment super agréables à manipuler. Il vaut mieux y jouer à plus de 2, ça permet de plus varier les pions qui avancent à chaque tour et ça met plus de suspense. Encore une fois, c'est un jeu que vous ne trouverez pas chez Philibert, mais je vous invite vraiment à l'essayer si vous en avez l'occasion, et à l'acheter si vous le trouvez sur votre chemin. Et d'ici là, jouez bien!
Bah, je pense que c'est un défi de trouver un jeu complet où il manque pas un singe, du coup.
Ouais. Ouais. Bon, après, c'est toujours un défi sur les brocantes de trouver des vieilleries.
Mais en fait, elle explique sa stratégie. Hein. C'est ce qu'elle disait dans sa chronique sur Siège. Mmh. C'est t'achètes plusieurs jeux pour en faire un qui est potable.
Ouais. Mais après, avec les super gangs, c'est souvent le pistolet qui manque. Et ça, c'est, C'est quand t'as des jeux comme ça un peu emblématiques.
Ne remets pas le couteau dans la plaie. On s'en souvient du Super Gang qui t'est passé sous le nez.
Bah, moi aussi, je m'en souviens. J'aurais pu faire fortune sur Ocaseo.
Non, ton annonce aurait été virée pour prix abusif, peut-être.
Ah, bah, justement, dernièrement, j'ai regardé Secret Hitler pour voir s'il n'y en avait pas en vente. Et il y a une annonce sur Ocaseo à 110 euros. Et dans l'annonce, le mec il met n'achetez pas ce jeu à ce prix-là, soyez pas fous, mais c'est le prix auquel je voudrais bien m'en séparer pour pouvoir après en racheter un autre quand il sera disponible. Je dis, mais c'est quoi cette annonce? Donc il le vendait, mais il le vendait pas vraiment, quoi.
Et alors, t'as essayé de le contacter?
Non, je n'essaye pas ce genre de choses. Non, mais il est en print and play, donc je vais peut-être me lancer dans le print and play pour celui-là, parce qu'il est. J'avais fait une partie déjà.
Il y a une centaine de cartes à imprimer?
Non, pas une centaine, mais il y en a un petit peu, quoi. Et du coup, voilà. On a une bonne imprimante au travail.
Et t'as une bonne plastifieuse aussi?
Non, ça j'ai pas, par contre. Il va falloir que je trouve ailleurs, quoi.
Tu demanderas des conseils à Courju.
Voilà. Ok, bah voilà, c'est à peu près c'est tout pour les chroniques pour cette fois.
Voilà, merci Dédé de m'avoir réinvité.
Ah ben, de rien, j'espère. Ouais,
Je pensais que tu m'avais grillé pour le reste de la saison.
Non, je vais te faire travailler encore un petit peu. T'inquiète.
Ok. Eh bien, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, podcast avec un P.
Et
non, c'est pas ce que je voulais dire. Proxy avec un I, jeu avec un X. Vous y trouverez toutes les infos sur les jeux que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes. Mettez-nous des commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour de votre part. Et on vous dit à très bientôt dans un nouvel épisode. Et d'ici là, jouez bien.